Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Donald Trump, acte 2. Depuis les élections de mi-mandat en novembre dernier et la victoire des démocrates à la Chambre des représentants, la seconde partie du mandat présidentiel s'ouvre sur un record, la plus longue paralysie du budget et des services fédéraux de l'histoire américaine. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis 36 jours. Au cœur de cet affrontement sans merci entre le 45e président et l'opposition démocrate, le mur, ce fameux mur avec le Mexique, devenu le symbole du programme présidentiel et l'obsession personnelle de celui qui se prépare déjà à la campagne de 2020, sous la menace de révélations éventuelles sur ses liaisons dangereuses avec la Russie. Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui des deux premières années d'une présidence véritablement stupéfiante, en rupture avec les canons ordinaires de Washington, une présidence dont Twitter est devenu l'instrument favori. Sur le plan international comme en politique intérieure, il faut reconnaître néanmoins que Donald Trump a fait en gros tout ce qu'il avait annoncé. Verra-t-on d'ici 2020 la même cohérence, quelles que soient les disruptions provoquées par lui, ou faut-il s'attendre à des changements de pied? Au-delà du blocage actuel, quel rôle va jouer le Congrès? Comment va peser un parti démocrate éparpillé entre plusieurs candidatures aux primaires qui ont déjà été annoncées? L'économie américaine est en forme florissante, mais les marchés financiers restent fébriles. Quelles conséquences pour l'Europe et pour les grands déséquilibres du monde? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Thomas Gomard. Vous dirigez l'Institut français des relations internationales par téléphone depuis Washington et je l'en remercie. Tony Blinken, vous êtes l'ancien secrétaire d'État adjoint de Barack Obama de 2015 à 2017 et vous dirigez aujourd'hui le centre du nom de Joe Biden, qui est d'ailleurs l'un des favoris démocrates pour la prochaine présidentielle, le Centre pour la diplomatie. Laurie Kenton, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, et par téléphone depuis Davos, Laurence Boone, chef économiste à l'OCDE. Merci beaucoup d'être avec nous. Thomas Gomard, l'affolement du monde, c'est l'excellent titre de l'ouvrage que vous venez de publier chez Taillandier. L'affolement du monde, en fait, dont Donald Trump a été en quelque sorte, depuis 2 ans en tout cas, le chef d'orchestre.
Ou le symptôme. C'est-à-dire que l'élection de Donald Trump, à mon avis, résulte d'une modification très profonde du corps électoral américain et que son comportement, effectivement, accentue l'impression d'emballement et de perte de contrôle. Ça se traduit de diverses manières. Vous mentionniez dans votre introduction le rôle de Twitter. Je pense que la présidence Trump sera celle qui aura transformé en réalité Twitter comme principal outil diplomatique contre toute attente.
Et avec l'instantanéité.
Avec l'instantanéité, avec le style, la manière au fond d'aborder des questions extrêmement complexes, de les simplifier à outrance, et également d'être toujours à la limite de l'invective. Et en cela, je pense qu'il y a une cohérence très forte dans le comportement de Donald Trump faisant campagne et sa manière de présider et de conduire la politique étrangère américaine. Donc pour moi, le premier élément de cohérence que vous soulignez, je dirais, il relève de la pratique diplomatique, c'est-à-dire qu'il est cohérent dans son utilisation des réseaux sociaux et ça a pour conséquence de modifier tout simplement l'atmosphère générale puisque tout le monde aujourd'hui est suspendu à ses tweets et que ce mode très instantané, très réactif, participe effectivement de ce que j'appelle dans l'ouvrage « L'affolement du monde ».
Et c'est un usage de Twitter qui s'est répandu, c'est-à-dire que tous ses homologues, à commencer par le président français maintenant, réagissent aussi sur Twitter et notamment sur ce qui se passe au Venezuela.
Pas tout à fait dans les mêmes termes.
Avec plus d'élégance, dirons-nous, avec plus d'élégance. Pour souligner cette cohérence de la présidence Trump jusqu'à présent, on a bien vu à quel point l'ordre multilatéral auquel Washington semblait historiquement dédié, à son avantage d'ailleurs, Trump a bousculé tout cela, préférant de loin le bilatéral et n'hésitant pas à traiter les alliés historiques des États-Unis de la manière la plus rude qui soit.
Vous avez un ouvrage de James Lindsay du Council on Foreign Relations qui s'appelle « The Empty Throne », qui explique que le trône vide. Je pense d'ailleurs que le titre n'est pas très bon de ce point de vue-là par rapport à la réalité. Mais ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'ils expliquent que le général Mattis avait indiqué au président Trump,
l'ancien
secrétaire d'État à la Défense,
qui est parti, enfin qui a été limogé.
Après,
on disait c'est l'un des rares hommes sérieux dans la pièce.
Absolument. Le général Mattis expliquait à quel point le système d'alliance et l'ordre libéral international, pour reprendre la formule consacrée, faisaient partie des principaux actifs des États-Unis en termes de politique internationale. Et la réponse de Donald Trump, rapportée par les auteurs de ce livre, c'est de dire « mais je n'y crois pas du tout, ça n'a aucune valeur ». Je crois que ça illustre assez bien effectivement le tremblement de terre provoqué par Donald Trump, parce que d'une certaine manière, il renonce aux éléments de continuité de la politique étrangère américaine, mais il le fait de manière cohérente puisqu'il l'avait annoncé. Et quand on regarde deux ans après ses principales réalisations en termes de politique étrangère et ce qu'il exprimait au moment de la campagne, il y a effectivement beaucoup plus de cohérence que d'incohérence.
Et parmi ces axes de cohérence, cette volonté de se retirer du théâtre moyen-oriental, même si le retrait des troupes américaines de Syrie a été décalé de quelque temps, mais le principe en a été annoncé.
Alors pour moi, c'est vraiment un point d'inflexion majeur avec amorcé d'une certaine manière avec la décision sur l'Iran. Je rappelle juste la chronologie. En avril 2018, les États-Unis, avec la France et la Grande-Bretagne, frappent la Syrie après des attaques chimiques. Et un peu moins de 9 mois plus tard, les États-Unis, Donald Trump, annoncent de manière unilatérale leur retrait de Syrie, ce qui pose un problème de sécurité immédiat pour les pays européens, en particulier pour la France, qui a des troupes engagées sur le terrain, imbriquées au dispositif américain, et qui évidemment est concernée, au même titre que d'autres pays européens ou de pays comme la Russie, par le phénomène des retournistes, c'est-à-dire de ces djihadistes qui veulent revenir. En dépit de ce problème majeur, au fond, la politique de Trump consiste à dire « je fais ce que je veux sans tenir compte de la vie et des obligations de mes alliés ».
Là où Donald Trump promettait une amitié resplendissante avec le dirigeant russe, là on peut dire que ces liens avec Vladimir Poutine ont été fortement et restent fortement compromis, d'abord par la fermeté de Vladimir Poutine qui a très bien compris à qui il avait affaire, et aussi, il faut bien dire, par l'enquête du procureur spécial Mueller sur l'ingérence de la Russie pendant la campagne présidentielle américaine de 2016.
Ce que disait Donald Trump avant son élection, c'est rapprochement avec la Russie pour affaiblir la Chine. Deux ans après, on a une situation où il y a une guerre commerciale et probablement une guerre ouverte dans le cyber avec la Chine. Ça, en cela, il est effectivement cohérent. En revanche, le rapprochement avec la Russie ne s'est pas opéré pour les raisons que vous indiquiez. Ces relations se sont quand même traduites, à mon avis, de mon point de vue, par l'ascendant a été pris par la Russie. Et je pense que ça s'est vu très clairement lors du sommet d'Helsinki en juillet 2018, qui fait partie des pires humiliations subies par la diplomatie américaine à mes yeux, dans la mesure où le président américain a ouvertement accordé plus de crédit aux propos de son homologue russe qu'à ce que lui remontaient ses services. Et ça, évidemment, c'est un élément très important, je pense, pour illustrer sur la Russie le décalage qui existe entre les positions personnelles de Donald Trump et ce que pense l'appareil, soit diplomatique ou militaire, américain de la Russie.
Les notes du traducteur ayant assisté Donald Trump à cet entretien ayant mystérieusement disparu. D'ailleurs, ça fait partie des questions que se pose en ce moment l'équipe du procureur Mueller qui a procédé hier vendredi, et c'est un fait spectaculaire dans cette enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine, Roger Stone, qui est un vieux complice de Donald Trump depuis ses années dans l'immobilier, Roger Stone a été inculpé et arrêté en Floride. Tony Blinken, bonjour, merci mille fois d'être avec nous depuis Washington. Jusqu'à quel point est-ce que cette arrestation de Stone représente pour Donald Trump une menace encore plus pressante encore dans un climat politique déjà bien lourd à Washington?
C'est exactement ça. C'est un autre pas par Mueller en direction d'un dossier qui sera complété dans les semaines ou les mois à venir. C'est maintenant, je pense, le sixième conseiller de Trump qui a été accusé par Mueller. 38 personnes au total accusées par lui en relation avec les élections de 2016. Évidemment, tout le monde attend ses conclusions sur le président Trump lui-même. Crimes financiers, collusion avec la Russie, obstruction à la justice, toutes ces questions sont devant M. Mueller et seront bientôt devant le peuple américain.
Est-ce que les médias ont tendance, Thomas Gomard soulignait à l'instant le rôle de Twitter, mais il faut bien dire que le tempo électronique à Washington est devenu fou, jusqu'à quel point est-ce que les médias ont véritablement le temps de prolonger ou d'enquêter à leur tour avant de se lancer, comme l'a fait BuzzFeed il y a quelques jours, dans des accusations qui s'avèrent ensuite sans fondement?
Non, je pense que Thomas a entièrement raison, c'est devenu presque impossible. À la fois, les médias sont en concurrence pour avoir les nouvelles le plus rapidement possible et il y a toujours un danger qu'on y va trop rapidement. Dans un même temps, il y a trop et les gens ont beaucoup de mal à en tirer des conclusions parce que crise une minute est dépassée par une deuxième, une troisième, cinq minutes, une heure après. Donc cette rapidité cause des problèmes énormes et il y a une pression également énorme sur les responsables politiques pour réagir dans les médias sans réfléchir. Et ça cause aussi des problèmes. Donc le contexte est très difficile à gérer. Et dans un sens, c'est un avantage parfois pour le président Trump, parce que même s'il y a un dossier brûlant qui explose, qui pose un problème pour lui, il y a sans doute moyen, dans l'heure qui suit, de changer le sujet.
Et c'est bien ce qu'il a fait, semble-t-il, en annonçant en particulier une nouvelle rencontre avec le dirigeant nord-coréen, une rencontre qui devrait avoir lieu sans doute au Vietnam, ce qui est déjà spectaculaire, d'ici la fin février.
Oui, et Christine, vous savez, problème à domicile, on se consacre à la politique étrangère. On a une plus grande marge de manœuvre, moins sujet aux contraintes du Congrès, surtout maintenant un Congrès qui est devenu démocrate. Donc je pense qu'on peut s'y attendre à justement une concentration sur les dossiers à l'étranger, un accord commercial avec la Chine par exemple, ces négociations avec la Corée du Nord, continuation du retrait en Afghanistan et en Syrie, et puis peut-être une crise pas voulue par Washington qui va dominer l'espace politique un petit moment. Tout cela, en tous les cas, suggère que le président va se concentrer un peu à l'étranger.
Ce qui est sidérant, vu d'Europe, c'est que le président est à la tête d'une administration véritablement déplumée. Il n'y a pas de ministre de la Défense, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de secrétaire général de la Maison-Blanche, et le ministre de la Justice, la nouvelle ambassadrice à l'ONU, qui n'est jamais qu'une ancienne journaliste de Fox News, et le patron de l'agence environnement sont, eux, en attente de confirmation du Sénat. Donc, comment est-ce que cette administration peut fonctionner?
Alors, justement, c'est peut-être le problème le plus important, parce que, jusqu'ici, l'administration n'a pas vraiment été affrontée à une crise. Tous les problèmes, c'est les problèmes que l'administration a créés elle-même, le retrait de l'accord de Paris, le retrait de l'accord avec l'Iran, le retrait l'accord des échanges commerciaux transpacifiques, etc., etc. Mais jusqu'ici, pas de vraie crise venant de l'extérieur. Et on peut s'y attendre, hélas. Attaques terroristes, conflits dans le cyberspace, une accroche avec la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, qui devient une spirale incontrôlable, une épidémie comme l'Ebola, ou peut-être même bien le Venezuela. Et je pense qu'il faut constater que c'est l'administration le moins bien préparée dans l'histoire pour gérer une crise. Parce que, comme vous le soulignez, manque de personnel, à la fois de haute qualité, mais aussi de personnel tout court. Il y a effectivement personne à la maison. Mais aussi, un vrai manque de processus interne pour gérer une crise, pour que tous les points de vue soient connus, pour que les options soient définies et testées, pour qu'il y ait une politique annoncée, pour que tout le monde soit sur la même page. Ça n'existe pas au sein, hélas, de l'administration. Donc, ce que je crains, c'est une crise qui est très mal gérée par l'administration.
Alors, il faut rappeler, évidemment, que vous vous situez très clairement dans l'opposition à cette administration, oui, et que vous êtes resté très proche de Joe Biden, donc l'ancien vice-président de Barack Obama, qui peut-être lui-même devenir candidat à la prochaine présidentielle. Laurie Kenton, je rappelle que vous êtes historien, maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste des États-Unis. On assiste à un spectacle qui, vu de France et en pleine crise sociale française, est absolument sidérant. C'est que 800 000 fonctionnaires américains ne sont pas payés et pour la plupart ne travaillent pas depuis 36 jours. Donc c'est un blocage des emplois fédéraux qui est dû à quoi ? À un duel à outrance entre le législatif et l'exécutif.
Alors oui, il y a cette espèce de partie de poker entre deux groupes qui bluffent plus l'un que l'autre et plus l'autre que l'un jusqu'à ce que le premier cligne des yeux. Et en réalité, c'est pas tout le gouvernement fédéral. Il y a à peu près 800 000 fonctionnaires. Certains sont mis en congé, c'est-à-dire qu'on leur demande de rester chez eux. D'autres, en revanche, sont considérés comme vitaux, à peu près 400-450 000, et on leur demande de travailler sans être payés. Alors il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises ou qui vont être prises pour les payer en fait après coup, mais et pour ça il faut que le gouvernement soit débloqué et que les crédits soient alloués.
Mais il y a déjà des scènes incroyables dans certains aéroports comme Atlanta.
Ou dans les parcs nationaux par exemple.
Ou dans les parcs nationaux où il n'y a plus suffisamment de fonctionnaires ou plus fonctionnaires
du tout. Oui.
Alors, expliquez-nous comment, parce que nous pensons en France, nous avons un régime présidentiel, mais en fait, le système présidentiel à l'américaine repose précisément sur ce pouvoir très équilibré entre la séparation des pouvoirs législatif et exécutif.
Les freins et les contrepoids, c'est-à-dire que les fondateurs, James Madison au premier chef, avaient, on pourrait dire, presque anticipé Donald Trump. En tout cas, ils avaient anticipé la possibilité d'un tyran, puisque eux se dégageaient de la monarchie anglaise.
Oui, enfin, c'est pas un tyran, quand même.
Non, c'est-à-dire que la Constitution a été faite dans l'idée que quelqu'un, un démagogue, d'après les termes de Madison, pouvait commencer en démagogue et terminer en tyran, et donc il fallait mettre en place des institutions qui permettaient de le neutraliser. Et donc ces freins et contrepoids permettent de ne pas donner tous les pouvoirs à quelqu'un. Il y a toujours un moment où une autre institution va pouvoir neutraliser, retirer, contrôler, etc. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Et donc on voit que finalement, ce blocage montre à la fois un dysfonctionnement et une forme de fonctionnement, puisqu'on peut pas avoir de passage en force, on est obligé de s'entendre à un moment. Et ça embête tout le monde, puisqu'il va falloir que quelqu'un cède, voire que les deux cèdent.
Alors il faut rappeler que le cœur du conflit, c'est le mur, le fameux mur que Donald Trump avait promis à ses électeurs pendant la campagne de 2015-2016, ce mur avec le Mexique, qui ne serait en fait pas vraiment un mur, mais qui coûterait quand même
5,7 milliards.
Alors, ce qui est moins d'1% du budget fédéral américain. Mais enfin, quand même, c'est une somme conséquente.
Tout est extrêmement symbolique. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il y a eu un certain nombre d'enquêtes des grands journaux américains qui sont allés, parfois dans des coins un peu paumés de Virginie, demander aux gens pourquoi ils soutenaient Trump. Et est-ce qu'ils le prenaient au mot? Est-ce qu'ils le prenaient au sérieux? Est-ce qu'ils considéraient que le mur était un vrai mur en béton, etc.? Ils disaient non. L'idée, c'est qu'on s'attaque à l'immigration illégale. Donc les gens ne s'attendaient pas au départ à ce qu'il y ait un vrai mur. Alors, il y a déjà des formes de mur hein, sur à peu près un tiers des 3000 miles de frontières.
Et approuvé ou voulu par les démocrates, parce que c'est depuis, assez ambigu toute cette histoire.
Depuis Clinton, le début du mur, si on veut parler en termes un peu simplistes, c'est 94. Ça a été repris et amplifié sous Bush dans les années 2000. Donc c'est une longue histoire. Trump n'est pas l'inventeur du mur. Il ne propose pas quelque chose de véritablement nouveau et révolutionnaire. Lui, il veut le poursuivre et le, le terminer. Et ce mur, c'est concrétisé, concrete, ça veut dire béton en anglais, donc on peut jouer là-dessus, c'est concrétisé pour les partisans de Trump, c'est-à-dire que maintenant, ils veulent une vraie séparation physique. Et le problème, c'est que les démocrates et un certain nombre de républicains, d'ailleurs, qui sont un peu gênés aux entournures, parce qu'ils soutiennent Trump, mais en même temps, le mur, ça les embête un peu, parce que pour eux, la véritable réponse à l'immigration illégale, mais également le fait qu'il y ait de la drogue ou des armes, etc., qui passent la frontière, ce n'est pas en érigeant un mur au-dessus de la terre qu'on va empêcher les tunnels en dessous de la terre, par exemple, où l'essentiel de la drogue passe dans des chargements légaux. C'est juste qu'on ne les voit pas, mais ils passent au point de frontière officiel. Donc pour eux, ce n'est pas forcément un mur, mais un mur intelligent. On parle maintenant un petit peu de smart wall, qui pourrait être non pas forcément un mur, une barrière, mais un certain nombre de dispositifs qui font effet de mur pour bloquer soit les gens, soit les produits illégaux.
Mais néanmoins, ce mur est devenu, pour Trump, une obsession et quasiment le symbole
complètement
de sa politique et éventuellement de sa réélection.
Mais totalement, et de sa crédibilité. C'est-à-dire qu'en fait, il avait deux grands slogans de campagne qui étaient tout à fait mémorables par ses partisans et ses opposants, et ses opposants, qui étaient « Build the wall », construisons le mur, et « Drain the swamp », nettoyons le marécage. Bon, le marécage de la corruption washingtonienne, pour l'instant, on attend. Hein. Ce sera peut-être pour plus tard.
Oui, les mauvais esprits disent d'ailleurs que le marécage, c'est plutôt épaissi.
Oui, plutôt. Donc, ça, c'est un aspect de la campagne qu'on a plutôt oublié. L'autre aspect, c'est le mur. Et donc, ce mur qui prend un aspect obsessionnel, c'est un petit peu sa crédibilité. Alors, vous l'avez signalé, il a accompli un certain nombre de ses promesses. Il le fait valoir déjà, il le fera valoir au moment de sa réélection. Mais que seront toutes ces petites promesses s'il n'arrive pas à avoir son mur ? Et d'un autre côté, on peut se dire que s'il n'arrive pas à l'avoir, en tout cas de manière absolument explicite et concrète, il pourra toujours dire « c'est la faute ». Des vilains démocrates qui ne veulent pas le bien de ce pays, ou c'est la faute de renégats républicains, ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il se présentera en victime et ça lui fait un argument de campagne.
Laurence Boone, nous partons pour Davos vous rejoindre. Merci mille fois d'être avec nous par téléphone. Vu de Davos, on sait que Donald Trump a annulé sa participation. Toute la délégation américaine l'a suivi, en quelque sorte. Le secrétaire d'État a fait une intervention par vidéoconférence, ce qui a provoqué l'ironie du vice-président chinois. Comment est-ce qu'on sent ce blocage à Washington, à Davos?
Alors, il est particulièrement relié, comme vous le soulignez, à la discussion en fait qui monte sur les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, et qui, je pense, ne s'arrête pas à la vision un peu simpliste du déficit commercial que le président Trump sur lequel il s'appuie beaucoup dans les médias en tous les cas. Les vrais enjeux qui sont derrière, c'est effectivement la montée en puissance de la Chine, sa montée en puissance économique, et le fait qu'elle le fait d'une façon qui est jugée aussi pas juste en regard des règles de concurrence internationale. Il y a toutes les questions, comme vous savez, de protection de la propriété intellectuelle, voire de transfert de technologie, de subventions aussi qui sont données, bien sûr, aux entreprises d'État en Chine. Et ce qui était très frappant à Davos, c'est effectivement ce dialogue ou ce non-dialogue ou ce dialogue compliqué en tous les cas entre la Chine et les États-Unis et donc la question du protectionnisme et de la mondialisation et beaucoup moins de discours sur l'Europe.
Et comment est-ce que les dirigeants européens, qui les principaux dirigeants européens brillent eux aussi par leur absence, mais comment est-ce que les ministres et les hommes et les femmes d'affaires qui sont là-haut, comment est-ce que les Européens se situent ou se positionnent par rapport à ce bras de fer américano-chinois?
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les Européens étaient un peu en retrait ici. Et le centre de la discussion était plus comment est-ce qu'on arrive à remettre en marche cette machine de la mondialisation qui semble s'enrayer, tout en admettant que, bien sûr, elle a bénéficié, globalement, c'était bénéfique, mais qu'il y a des problèmes avec. les Européens, ils sont un peu pris en milieu, en fait, entre... Il y a deux choses avec eux. La première, c'est qu'ils sont au milieu de ces discussions. Et le premier pays, bien sûr, l'Allemagne, qui fait des échanges autant avec les États-Unis qu'avec la Chine, donc qui est dans une situation particulièrement difficile et qui ensuite a un impact sur le reste de l'Europe. Donc finalement, tout le monde regarde ça avec attention. Je pense que l'Europe pourrait être dans une position assez forte si elle était très unie sur ces sujets. Mais le fait, et ce qui ressort aussi quand on entend parler les Européens, c'est cette difficulté parfois à se mettre d'accord. Alors si on prend l'exemple du Brexit, il a été très impressionnant de voir comme les liens se sont resserrés derrière une position unique qui était dirigée par Michel Barnier pour traiter de la question du Royaume-Uni. Ce serait formidable si on arrivait à ça sur les relations avec la Chine et les États-Unis, mais on sent que c'est un petit peu plus compliqué, les intérêts commerciaux de certains étant beaucoup plus forts que d'autres.
À commencer évidemment par ceux de l'Allemagne.
Absolument. Et de son secteur automobile qui est touché à la fois par la réglementation interne et la forte baisse de la demande qui provient de Chine.
Tony Blinken, merci mille fois d'être resté avec nous par téléphone de Washington. Je rappelle que vous êtes aussi éditorialiste au New York Times et assez souvent chez nos confrères de CNN. Cette nécessité quand même de trouver une forme de consensus avec le Congrès, y compris en matière de politique étrangère, est-ce que, à votre avis, les démocrates en fait sont d'accord avec quelques axes véritablement dominants de la politique Trump, à commencer par la Chine, ce duel commercial avec la Chine?
Oui, il y a des points d'accord et je veux souligner deux choses. Je souligne premièrement ce que disait Thomas Gomert il y a quelques minutes. Dans un sens, le fait que le président Trump est vraiment un symptôme et non seulement la cause de ce que nous vivons. Dans le sens que aux États-Unis, il y a non seulement parmi les républicains, mais aussi parmi pas mal de démocrates, un désir de retrait. Et il y a un manque de consensus sur ce qui a défini la politique étrangère des États-Unis pendant 70-75 ans, c'est-à-dire un vrai engagement dans le monde et un effort de leadership pour définir les règles du système international, de gérer les institutions. Tout ça est en doute maintenant. Et le président Trump a mis un peu son droit sur cette tendance qui existe dans les deux parties. En même temps, il y a effectivement des points d'accord et en commençant par la Chine, effectivement, à la fois chez les démocrates et les républicains, il y a un sentiment que le président Trump a bien saisi, que les relations actuelles ne peuvent pas être soutenues. Il y a un manque de réciprocité dans la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis et par ailleurs entre la Chine et la plupart des autres pays qui ne peut pas durer. Et donc, le forcing que fait le président Trump sur la Chine, même si dans les détails, à mon sens, est mal visé, globalement, c'est quelque chose qui est soutenu. Et donc, on peut s'y attendre. Je pense, dans un premier temps, à peut-être un accord, un espèce d'accord, un petit accord à mi-temps sur les échanges, mais qui ne va pas résoudre les problèmes de fond, les problèmes structurels entre la Chine et le reste du monde. Et là, les démocrates vont probablement soutenir le président Trump.
Consensus aussi au Congrès sur le retrait américain de Syrie et d'Afghanistan?
Pas de consensus, mais c'est vrai à la fois dans les deux parties, un désir d'en finir avec ces soi-disant guerres éternelles. Malheureusement pour moi, on ne fait pas des différences et on devrait, entre un déploiement d'une centaine de milliers de troupes américaines pour une période indéfinie, comme en Irak et comme en Afghanistan, entre ça et, par exemple, 2000 spécialistes américains en Syrie, dont le prix est tout à fait soutenable et qui peuvent avoir un rôle très important au-delà de leur nombre. Il y a, comme on disait, un désir de retrait dans les deux parties et ça se manifeste effectivement maintenant en Syrie et en Afghanistan.
Votre analyse, Tony Blinken, de la situation de votre parti, le Parti démocrate. On voit chaque jour de nouvelles candidatures pour les primaires, et notamment de la part de jeunes femmes élues ou réélues lors des dernières élections de mi-mandat. Est-ce que le Parti démocrate, néanmoins, sait à peu près où il va et quel est, où est le leadership du Parti démocrate aujourd'hui?
Il y a un comédien américain dans le passé qui disait « Je ne fais pas partie d'une partie politique organisée, je suis démocrate ». Donc les démocrates ont toujours tendance à ne pas avoir de leadership, sauf s'il y a un président démocrate dans la Maison-Blanche. Il y aura un débat très intéressant entre divers camps dans le Parti démocrate, y compris sur la politique étrangère lors de cette campagne. Mais une fois qu'un candidat, une candidate émergera pour la présidence, je pense que ce coup-ci, le parti, enfin je l'espère, va s'unifier derrière ce candidat, parce que ce qui anime les démocrates maintenant, c'est un désir farouche d'en finir avec le président Trump et d'élire quelqu'un d'autre. Donc, dans un premier temps, il y aura un vrai débat. Dans un deuxième temps, je pense que les gens vont s'unifier.
Et d'ici là, en tout cas, une guerre à outrance dans les deux ans qui viennent contre le président et son administration. Une guerre menée par la patronne démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, une forte femme qui, à la différence du président, a une connaissance intime du pouvoir législatif. Et alors, en plus, il faut bien dire que c'est le genre de femme qui désarçonne, semble-t-il, le président des États-Unis, Eric Schole.
Le New York Times la présente comme la femme la plus puissante et du rang le plus élevé jamais élu dans la vie politique américaine. Et c'est vrai, Nancy Pelosi, qui a 78 ans, est la nouvelle présidente de la Chambre des représentants, un poste qu'elle a déjà occupé dans le passé, est aussi crainte qu'admirée aux États-Unis et en particulier au sein du Parti démocrate, donc majoritaire dans cette Assemblée. Il y a eu un bref moment dans la vie de Nancy Pelosi où elle s'inquiétait d'avoir trop de pouvoir, raconte le New York Times. Elle avait tellement de titres au sein du Parti démocrate de Californie, dont celui de présidente, qu'elle avait confié à la représentante de Louisiane qu'elle pensait en abandonner certains. C'était en 1984 et celle-ci lui avait répondu « Ma chérie, aucun homme ne penserait jamais ça, ne renonce à rien, connais ton pouvoir ». Plus de trois décennies ont passé, Nancy Pelosi connaît toujours parfaitement les arcanes du pouvoir. Comme l'écrit le New York Times, à l'époque de MeToo, cette mère de 5 enfants et grand-mère de 9 petits-enfants incarne aux yeux du public le visage de l'opposition à un président qui a remporté la Maison-Blanche en dénigrant les femmes et en versant de l'argent pour faire taire un mannequin de Playboy et une actrice de film pornographique qui affirme avoir eu des relations extra-conjugales avec lui. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Nancy Pelosi n'est pas une opposante virtuelle, tant elle mène la vie dure aux locataires de la Maison Blanche. Elle a par exemple demandé à Donald Trump de reporter son discours sur l'état de l'Union, comme elle en a le droit, en invoquant des raisons de sécurité liées au shutdown. Le président a répliqué en annulant à la dernière minute un déplacement secret d'un démocrate en Afghanistan. Puis il a voulu bluffer en annonçant qu'il prononcerait lui-même, qu'il prononcerait quand même son discours. C'était sans ambiguïté, explique le Washington Post. Trump a dit qu'il viendrait, mettant au défi Pelosi de le stopper. Or, c'est ce qu'elle a fait. Il a dû rétropédaler presque aussitôt. Alors, comme le résume le New York Times, il ne faut pas chercher Nancy. Un conseil qui vaut d'ailleurs pour toutes ces jeunes femmes politiques qui viennent de faire leur entrée au Congrès. On pourrait tenter d'opposer Pelosi à cette génération, nous dit le magazine Time, mais ce serait oublier combien elles ont en commun et combien Pelosi leur a ouvert la voie. Et les femmes sont assez intelligentes pour comprendre qu'il est possible de toutes les admirer, nous dit Time.
Il n'en reste pas moins que parmi ces jeunes élus démocrates à la Chambre des représentants, il y en a qui sont très nettement beaucoup plus à gauche que Nancy Pelosi, mais qui sont rentrés dans le rang.
Et oui, parmi celles-ci figure bien sûr Alexandria Ocasio-Cortez, la chérie de la gauche, le cauchemar de la droite, nous dit le New York Times à 29 ans. Elle est la plus jeune élue de tous les temps au sein de la Chambre des représentants, ce qui ne la rend absolument pas timide. Nouveaux impôts, assurance médicale, bourse pour tous. Elle dégaine ses propositions, toutes ancrées très à gauche. L'élu de New York n'a pas peur de creuser les déficits ou de taxer les riches jusqu'à 60 ou 70% sur les plus hauts revenus. Pour rappel, écrit le New York Times, le taux de prélèvement le plus élevé aujourd'hui est de 37%. En proposant le double ou presque, Alexandria Ocasio-Cortez savait qu'elle allait focaliser le débat. Ses 2,4 millions de fans sur Twitter applaudissent. Et le sujet est d'ailleurs beaucoup moins tabou qu'on le pensait. Selon un sondage cité par le New York Times, 59% des électeurs soutiennent l'idée de monter le taux de prélèvement à 70%. Autre enseignement, même le socialisme n'est plus un gros mot. 57% des démocrates ou de leurs proches déclarent avoir une vision positive du socialisme et seulement 47% d'entre eux disent avoir une vision positive du capitalisme. Alexandria Ocasio-Cortez a bien compris qu'il y avait un créneau à prendre à la gauche du Parti démocrate.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Laurence Boone, merci d'être avec nous par téléphone de Davos. Je rappelle que vous êtes la chef économiste à l'OCDE. L'état de l'économie américaine est-il toujours aussi florissant alors qu'on a vu à quel point les marchés financiers ont été nerveux ces dernières semaines?
Oui, vous avez raison. Les marchés, et il semblerait que ce soit seulement ces dernières semaines que les marchés financiers ont réalisé à quel point les tensions entre la Chine et les États-Unis pouvaient aller perturber les perspectives de croissance pour toutes les entreprises. Et en fait, on peut couper la période du mandat du président Trump en deux. La première partie où il arrive, où il fait la réforme fiscale vraiment massive hein, du système d'imposition aux États-Unis, qui permet à la fois de donner plus de redonner des marges de manœuvre aux entreprises, de leur faire rapatrier de l'argent pour faire des investissements, alors même que l'économie américaine n'a pas vraiment besoin de tout ça puisqu'elle est en pic de cycle avec un taux de chômage qui historiquement n'a jamais été aussi bas et que même le taux de participation au marché de l'emploi était en train de repartir. En fait, elle crée cette première partie avec un très fort stimulus budgétaire. Elle crée même des tensions sur certains marchés où on voit les salaires s'envoler, ce qui fera un peu d'inflation.
Mais ça va être beaucoup plus compliqué maintenant.
Vous avez tout à fait raison. Ça va être beaucoup plus compliqué d'abord parce qu'il a plus la capacité politique de faire autant de choses comme les autres invités le décrivent. En plus, il va rentrer dans une période où la politique monétaire, qui a été de moins en moins accommodante, va véritablement commencer à avoir de l'impact et à resserrer les conditions financières sur les marchés. Et l'effet de son stimulus budgétaire va diminuer. Et s'il avait un grand plan d'infrastructure, c'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place. Vous avez besoin des projets. On voit ce qu'on peut avoir comme souci chez nous quand c'est pas parfaitement planifié. Et ça n'est pas le cas aux États-Unis. Ce n'est pas parfaitement planifié.
Et il faut que ce soit bipartisan. C'était quand même l'espoir pour cette deuxième partie de mandat. C'est qu'il y ait évidemment un consensus sur les infrastructures, la crise des opioïdes. Il y a des problèmes de santé publique qui sont absolument monstrueux. Et puis, il y avait ce programme fiscal pour les classes moyennes. Il faut quand même rappeler que le premier programme fiscal a surtout bénéficié aux ultra-riches.
Mais à nouveau, vous avez raison. Et c'est vrai, ils ont des intérêts communs. Les infrastructures, c'est quelque chose qui est partagé des deux côtés. Seulement, l'administration Trump laisse entendre qu'elle ne veut pas reprendre les plans de l'administration Obama. Donc, ça veut dire qu'il faut reconstruire un pipeline pour les infrastructures. Et comme vous savez, c'est long et compliqué. Je pense que ça sera la même chose sur les opioïdes, où ils ne voudront probablement pas utiliser la solution Trump. Et la même chose sur les taxes moyennes. Quand on voit le débat, quand on voit la façon dont les tensions sont montées sur le shutdown des États-Unis et le mur, on se dit que ça va être très compliqué d'arriver à faire des choses dans la deuxième partie de son mandat.
Laurie Kenton, Laurence Boone le disait à l'instant, ça va être beaucoup plus difficile pour l'administration Trump de trouver un mode de fonctionnement, d'autant que la guerre est véritablement ouverte avec l'opposition démocrate à la Chambre des représentants. Ce sera vraiment une guerre de harcèlement.
Alors, il ne faut pas que ça le soit pour les démocrates, parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop loin non plus pour ne pas braquer l'opinion. Il ne faut pas qu'ils aient l'air d'être revanchards. Il faut qu'ils aient l'air, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement théâtral dans la façon dont la Chambre des représentants va exercer la surveillance que lui donne la Constitution sur la présidence. Donc, la Chambre a le droit de mener un certain nombre d'enquêtes et de lancer des assignations à comparaître, ce qu'elle a commencé à faire avec Michael Cohen, par exemple.
Donc Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, qui devait comparaître, mais qui a décalé, semble-t-il.
Alors, qui devait comparaître, qui a dit que sa famille subissait des pressions de Trump, et donc qu'il avait peur, donc il voulait plus. Et donc la chambre a dû l'assigner à comparaître, et là, il sera obligé, parce qu'il est plus ou moins obligé. Le problème de la chambre, c'est qu'il ne faut pas qu'elle aille trop loin, notamment dans le théâtre de ces auditions qui vont commencer là. L'avantage, c'est que on sait, parce que ça a été mesuré par des chercheurs, plus ces auditions se multiplient, plus la cote du président descend. Or, la cote de Trump est déjà assez basse, donc on peut aussi se dire qu'on est un peu dans la roche-mère et que ça ne va pas pouvoir descendre beaucoup, de toute façon. En revanche, il y a aussi des coups à prendre pour les démocrates s'ils ont l'air de vouloir se payer Trump et pas de vouloir défendre le bien national, le bien commun. Et donc ça pourrait leur porter préjudice.
On voit que les sondages de Donald Trump sont à la baisse, y compris au sein de sa propre... de son propre noyau électoral, et notamment sur ce fameux mur.
Notamment, sur le mur, oui et non, c'est-à-dire que il y a
43% des républicains qui considèrent que le mur ne vaut pas le blocage.
Ah voilà, mais là c'est la question du shutdown, parce qu'on a plus de gens que l'année dernière qui sont pour un mur, même si ça reste minoritaire, ça reste très majoritaire chez les républicains, donc après il faut voir, comme l'opinion publique est extrêmement polarisée, quand on parle de l'opinion générale, on ne dit pas grand-chose. On a quand même beaucoup de républicains qui sont très pour, mais quand on regarde la question du coût du mur par rapport au blocage, là oui, il commence à y avoir des républicains, et notamment dans la base de Trump, des gens qui sont des blancs sans diplôme, etc., donc les ouvriers qui ont fait élire Trump, il y a pas mal de gens qui commencent à dire que le blocage est peut-être exagéré, que le responsable du blocage, c'est Trump et pas les démocrates, puisque les deux, de toute façon, sont intransigeants. Mais il y en a un qui est considéré comme moins légitimement intransigeant que les autres, donc ça pourrait se retourner contre lui. Cela dit, on a parlé tout à l'heure de la façon dont le cycle médiatique est un véritable rouleau compresseur et que les infos d'hier sont enterrées derrière celles d'aujourd'hui, et donc cette impopularité, la grande question, c'est de savoir si on est dans une tendance lourde d'effritement continu, notamment dans sa base, ou si c'est un léger frémissement et que finalement on va retourner dans des ordres de grandeur des mois précédents, notamment à mesure que les démocrates font valoir leur petite musique et que ça pousse un certain nombre de gens qui ne veulent pas de ça vers Trump par défaut. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas forcément de l'adhésion à Trump, mais il y aura peut-être un vote Trump en 2020 qui sera à nouveau un vote anti-démocrate.
Bien sûr. Alors, juste pour situer les choses par rapport au taux de sondage auquel nous sommes habitués en France. Donc, Donald Trump, pour le moment, sa cote de popularité va, selon les sondages, de 36 à 40%. Ce qui, pour un président américain, au bout de 2 ans, est bas.
Est bas. Mais c'est moins bas de manière comparée que ça l'était au début. Au début, par rapport aux autres présidents, il était extrêmement bas, mais les autres présidents ont tous chuté. Il y a juste l'exception de George W. Bush à cause du 11 septembre, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas comparable. Mais lui, sa cote a toujours été basse, mais elle est relativement stable, malgré tout, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on enchaîne les crises, les scandales et les révélations. Il devrait être avec une cote négative. Et en fait, il a finalement assez peu baissé quand on regarde la courbe sur le long terme.
C'est pour ça qu'il était surnommé le candidat Teflon au moment de la campagne, et qu'on disait il pourrait buter quelqu'un sur la 5e avenue à New York et il s'en sortirait. Mais néanmoins, Thomas Gomard, je rappelle que vous êtes le patron de l'IFRI, Tony Blinken y faisait allusion tout à l'heure, il y a un certain nombre de gros dossiers de politique étrangère sur lesquels les démocrates sont malgré tout en accord avec le président américain. Est-ce qu'on peut imaginer que pour distraire, encore une fois, son opinion publique, prioritairement, des dossiers de politique intérieure qui vont donc se complexifier dans les 2 ans qui viennent, il y ait davantage d'initiatives, et notamment en ce qui concerne l'Iran, parce que là aussi, je crois, il y a un relatif consensus dans la position vis-à-vis de Téhéran.
On l'a déjà mentionné, la Corée du Nord est une forme aussi déjà de dérivatif, c'est-à-dire que le fait qu'il envisage de rencontrer à nouveau le leader nord-coréen, dans le prolongement du sommet de Singapour, est une manière, en pleine crise, de reprendre la main. Si on regarde les sujets sur lesquels, effectivement, il peut bénéficier d'une forme de convergence, peut-être plus que l'Iran, sur lequel je vais revenir, je pense que c'est la Chine, comme ça a été indiqué, exprimé par Anthony Blinken, dans la mesure où on sent bien qu'il y a là une forme d'unité sur le danger et la menace que représente la Chine. Danger et menace exprimés très ouvertement par le vice-président Pence lors de son discours d'octobre, qui était, je dirais, sans ambiguïté sur la manière dont l'administration Trump évalue la menace chinoise. Ça, je pense, si vous voulez, que c'est un point de convergence. Des auteurs expliquent que, très clairement, on est sorti à Washington, de manière bipartisane, du mythe de la convergence, c'est-à-dire de cette idée selon laquelle la Chine rentrait dans l'OMC en 2001, allait progressivement suivre les règles de l'économie de marché et aller vers une forme d'assouplissement politique. En 2019, plus personne ne tient ce discours à Washington et prévaut plutôt l'idée selon laquelle, s'il y a un moment où il est encore possible de ralentir ou de détourner la montée en puissance de la Chine, c'est probablement maintenant. En ce qui concerne le Moyen-Orient, je vois là peut-être aussi des éléments de convergence. Par exemple, la décision effectivement de Donald Trump d'ouvrir transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem était une réponse à son électorat.
Et aux évangéliques, voilà. Qui restent évidemment l'un des piliers de
son électorat.
Mike Pence, le vice-président, étant le premier d'entre eux.
Absolument.
Il est là pour ça d'ailleurs.
Oui.
Voilà. L'autre dimension, c'est davantage l'axe que, à la faveur du retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis ont créé avec Riyad et Tel Aviv contre l'Iran. Là-dessus, je pense qu'il y a effectivement des éléments de convergence bipartisans, mais je les vois, si vous voulez, de manière moins robuste que sur la Chine. Pour le dire autrement, il est tout à fait possible que Donald Trump utilise aussi la guerre commerciale avec la Chine pour resserrer les rangs derrière lui.
Laurie Kenton, c'est la manière dont le président reste quand même à la manœuvre, c'est-à-dire qu'il a, à coup de tweet, cette faculté d'imposer l'agenda, d'en changer d'ailleurs plusieurs fois par jour si besoin est. Face à cela, et Anthony Blinken l'avouait en souriant tout à l'heure, le Parti démocrate semble quand même extraordinairement éparpillé depuis que le couple Clinton a été obligé de lâcher les manettes.
Ah, si Anthony Blinken ne l'avait pas sorti tout à l'heure, j'aurais utilisé la phrase qu'il a utilisée sur le fait que je ne fais pas partie d'un parti organisé, je suis démocrate. Il y a toujours cette espèce de... Ce qu'on trouve également, par exemple, chez dans la gauche française, une sorte de course aux idées ou en tout cas au positionnement, parce que parfois on est dans les idées, parfois on est dans les postures. Là, on a un certain nombre de profils qui se mettent en place. Il n'y a pas de leader naturel chez les démocrates pour 2020, mais justement, enfin, il y a deux générations en gros qui se distinguent, les plus de 70 ans et ceux qui ont entre 40 et 50 ans. Kamala Harris, qui vient de déclarer sa candidature à 54 ans.
Parlez-nous d'elle, parce que c'est un personnage vraiment intéressant, parce qu'elle est donc sénatrice de Californie.
Californie, oui.
Issue de minorité, comme on dit là-bas.
Ah oui, alors elle cumule, c'est-à-dire que son père est jamaïcain, donc elle est noire, mais elle n'est pas africaine-américaine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas descendante d'esclaves, ce qui était un petit peu reproché à Obama à une époque, parce que son père était kényan et pas du Mississippi ou quelque chose comme ça. Et sa mère est indienne d'Inde, donc elle a un double profil qui est ce qu'on appelle aux États-Unis asiatique, puisque l'Inde fait partie de l'Asie, donc elle est à la fois asiatique et qui est la minorité et qui croit... Le plus vite, est noir. Et donc les noirs représentent une portion très importante de l'électorat démocrate, notamment pendant la primaire.
Et c'est-à-dire... surtout les femmes noires.
Oui, c'est-à-dire que c'est 12% de la population, les noirs, 12-13% de la population, mais c'est un peu plus de 20% de l'électorat démocrate dans les primaires, et notamment dans certains états du Sud, ça peut être plus de 50%. Alabama, Georgie, donc c'est un électorat qui compte énormément, et le fait d'en faire partie, on a un petit peu les mêmes constatations avec les candidats hispaniques. Il y a une forme d'attraction du candidat hispanique envers l'électorat hispanique. Donc le fait d'en faire partie...
Il y a
partie,
un candidat hispanique d'ailleurs qui est...
Julian Castro.
Castro, alors qu'il est le jumeau de l'ancien ministre d'Obama, c'est
non,
ça?
Non, c'est l'ancien ministre d'Obama.
Ah, c'est lui-même, en fait, oui, d'accord, oui. Parce qu'ils sont deux Castro. Oui. Enfin, ils sont plusieurs Castro.
Ah oui, non, mais c'est une vieille histoire, les États-Unis et les Castro.
Oui, histoire complète.
Oui, voilà.
Donc, il y a bien un candidat hispanique qui délibérément vise cette cible, sur oui. laquelle comptait d'ailleurs Hillary Clinton, à tort.
Notamment, oui, oui, oui. Et lui était dans la campagne de Clinton. Il a été pressenti d'ailleurs comme colistier à une époque, justement, pour attirer l'électorat hispanique. Et comme on sait que dans la Rust Belt, par exemple, les États où Trump l'a emporté de quelques dizaines de milliers de voix, c'est l'abstention des Noirs qui a fait défaut à Hillary Clinton. Donc là, c'est vraiment essentiel. Le problème de Kamala Harris, c'est qu'elle a été procureure en Californie, qu'elle n'est pas considérée comme assez à gauche par la gauche un peu puriste démocrate qui pourrait...
À laquelle Eric Scholl faisait
exactement,
allusion tout à l'heure.
Et j'ai pas voulu l'interrompre, mais c'est exactement ce à quoi je pensais. Il pourrait très bien y avoir un moment où ces gens disent « Cette dame n'est pas assez à gauche pour nous, nous allons soit nous abstenir, soit voter pour quelqu'un qui est vraiment très à gauche. » Et donc, cette partie-là de l'électorat démocrate pourrait lui faire défaut au moment de la primaire, mais elle pourrait aussi aller à la pêche, comme on dit en France.
Et on ne sait toujours pas si Sanders, donc qui lui a 76 ans, si
je ne m'abuse, 74.
Ou 74, Joe Biden, donc l'ancien vice-président, oui. qui a le même âge, donc ça c'est la génération plus ancienne.
Et Elizabeth Warren, qui est un petit peu la coqueluche de la gauche, elle vient du Massachusetts.
Voilà, donc les jeux sont encore très ouverts, et alors il y a le jeune et beau Texan qui s'appelle O'Rourke, qui n'a pas réussi à détrôner Ted Cruz lors des élections de mi-mandat
mais qui a fait
Texas,
un très bon score.
Mais qui a fait un très bon score.
Et
donc,
qui a
là,
levé beaucoup d'argent. C'est très important, c'est le
oui,
nerf
ça,
de la
ça
guerre.
Ça va être encore une fois d'une obscénité totale, d'ailleurs, la manière dont l'argent va se précipiter dans cette campagne.
Kamala Harris, dans les 24 heures qui ont suivi sa déclaration de candidature, a levé 1,5 million de dollars, ce qui n'est pas un record, mais ce qui est un bon signe. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dizaines de milliers de donateurs qui y croient. Et donc, ça donne une certaine crédibilité à sa candidature. C'est une sorte de premier obstacle qui est franchi. Beto O'Rourke a cette capacité à lever des fonds. Et également, son élection contre Ted Cruz au Texas a été nationalisée. Donc, il a l'avantage par rapport à d'autres d'avoir bénéficié d'une couverture médiatique qui est très précieuse de ce point de vue-là.
Thomas Gomard en face, côté républicain, là, tout le monde se tient quoi ? Personne n'a l'air de mettre en doute l'idée que Donald Trump va se représenter pour obtenir un deuxième mandat.
Ça, c'est effectivement quelque chose de très frappant, c'est-à-dire que le parti républicain, pour l'instant, n'exprime pas de contestation ouverte à Donald Trump, même s'il y a probablement des ambitions individuelles. La question en fait que ça pose, c'est en termes, si je reviens aux sujets plus internationaux, c'est les conséquences que pourrait avoir une réélection de Donald Trump en 2020. C'est-à-dire que on le voit aujourd'hui 2018 après deux ans de présidence, tout ce qui a été transformé de manière extrêmement profonde et inattendue. S'il y a deux ans de plus à ce rythme, où est-ce que ça va nous conduire. Et si on rajoutait 4 ans, alors avec évidemment toutes les incertitudes qui pourraient planer sur à la fois la fin du premier mandat et un éventuel second mandat, là, pour le coup, la transformation, si on restait sur ce rythme, la transformation du système international et du positionnement des États-Unis serait radicale.
Ce qu'on entend aussi parfois à Washington, c'est cette idée selon laquelle, en fait, Donald Trump s'ennuie. Il le dit, je suis seul à la Maison Blanche, évidemment, s'il limoge tout le monde tous les 15 jours, je suis seul, et au fond, il ne s'intéresse pas au processus politique. Et c'est bien pour ça qu'il est tellement désarçonné, semble-t-il, dans cette bagarre avec l'opposition démocrate. C'est qu'en fait, ce sont des problématiques qui ne l'intéressent pas, qu'il ne maîtrise pas. Est-ce qu'on peut imaginer que, au fond, tout à coup, sur un caprice, oserais-je dire, ils disent, bon, écoutez, voilà, peut-être que ma fille, Ivanka, serait la mieux placée pour prolonger le règne Trump à la Maison-Blanche, ou est-ce que c'est de la politique fiction, en tout cas à ce stade?
Pour moi, c'est difficile de répondre à cette question. En revanche, ce que je vois assez bien, c'est effectivement la constitution du clan Trump. Il y a là quelque chose de très spécifique dans la manière dont il a, comme vous le disiez, organisé le pouvoir avec en créant un vide. Et ce qui semble le plus solide, c'est sa fille, son gendre, qui probablement nourrissent des ambitions. Maintenant, sur l'aspect Trump s'ennuie, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est en même temps un président qui semble en campagne permanente et que sa manière de prendre la parole... Laurique le disait fort justement, c'est-à-dire que oui, sa popularité baisse, mais en relatif, elle baisse moins que les autres présidents, c'est-à-dire qu'il a probablement trouvé, il trouve à l'évidence, un écho dans sa manière de faire de la politique qui, à mon avis, pose des questions sur l'évolution sociologique des États-Unis et de manière beaucoup plus large de l'évolution de nos systèmes politiques démocratiques ouverts.
C'est l'essence du style populiste en réalité. La grande question en sciences politiques, c'est est-ce qu'on peut gouverner en tant que populiste ou est-ce que
gouverner
longtemps ou est-ce que ce n'est qu'un style de campagne? Et Trump réussit cet amalgame en réalité de gouverner en étant en campagne. Le système américain des mandats de 4 ans y aident énormément. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette campagne permanente. Il en a besoin.
Dernière question, Thomas Gomard, en guise de conclusion provisoire. Est-ce que les Européens, très décontenancés, il faut bien le dire, par ces deux dernières années de présidence Trump, est-ce que vous pensez que maintenant le mode d'emploi est un peu plus au point et que nous, les Européens sont mieux à même à la fois de comprendre et éventuellement de réagir?
Bon, ce qui a échoué, ce sont les tentatives pour amadouer le fauve. Là, les diverses tentatives bilatérales ont globalement échoué. Je pense que les Européens ont compris deux choses. C'est qu'ils sont effectivement un objet de convoitise désormais entre Chinois et Américains. Et que, par ailleurs, c'est probablement une opportunité historique pour essayer d'être un peu plus sérieux en matière stratégique.
Sur cet espoir, merci à vous tous. Merci à vous, Thomas. Je rappelle que vous venez de publier chez Taillandier « L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques ». Merci à vous, Lauric Henton. Vous avez publié en 2017 chez Odile Jacob « La fin du rêve américain ». Je remercie bien sûr Tony Blinken qui était avec nous par téléphone depuis Washington et Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE qui était à Davos. L'OCDE, bien sûr, dont les rapports sont facilement consultables sur le site internet. Merci à Eric Scholl, comme chaque samedi, à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, à la technique Bruno Gagnard-Fontani. Meryl Moneghetti et Marion Barsac ont préparé cette émission et dans un instant, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end.